de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditrices auditeurs. Dans le monde entier, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les nouvelles de l'Indonésie et d'autres infos telles que l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Bon, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz sur le site web www.voanews.id.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Près d'une semaine plus tard, 40 ouvriers sont toujours coincés dans le tunnel effondré. L'Organisation nationale dit que les civils de Gaza sont menacés par la faim et la crise de l'eau potable. NTT met en œuvre un risque zéro dans sa politique d'exportation et d'importation de bétail. Le ministre du Commerce dit que l'Indonésie et le Canada conviennent d'achever Itachepa à la fin de 2024. L'Organisation nationale unie décerne des prix aux femmes indonésiennes, membres de Polri ou la police nationale. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. Les équipes de secours indiennes continuent de lutter pour sauver 40 ouvriers coincés dans le tunnel effondré depuis près d'une semaine. Les sauveteurs préviennent qu'il leur faudra encore 2 jours pour déblayer les décombres avant de pouvoir atteindre les ouvriers. Les creuseurs ont déplacé les débris depuis la dernière fois dimanche matin pour créer une voie d'évacuation pour les travailleurs après l'effondrement d'une partie du tunnel qu'ils étaient en train de construire. Selon l'agence de presse AFP vendredi, les efforts de sauvetage ont été entravés par des débris qui ont continué à tomber pendant que les ouvriers travaillaient bien de dégager le tunnel dans l'état himalayen de l'Uttarakhand. Les ingénieurs tentent maintenant d'insérer un tuyau en acier d'environ 90 cm de large à travers les décombres, suffisamment large pour que les personnes piégées puissent passer à travers. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ou PAM, affirme que les civils de Gaza, Palestine, sont menacés de famine parce que la nourriture est presque inexistante. Les habitants de Gaza sont également confrontés à une crise de l'eau potable. À l'approche de l'hiver, des abris insalubres et surpeuplement et manque d'eau potable, les civils risquent de mourir de faim. C'est ce qu'a déclaré la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain, dans une déclaration rapportée par l'AFP vendredi dernier. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a mis en garde contre une faim croissante à Gaza depuis des semaines. Cindy a déclaré que le pain est désormais rare ou inexistant et qu'il est impossible de répondre aux besoins alimentaires de Gazouis avec un seul poste frontière actuellement opérationnel. Le chef de la quarantaine agricole de Kupang, Khairuddin, a déclaré que la province de Nusa Tenggara Est a mis en œuvre le concept de risque zéro dans la politique d'exportation et d'importation, en particulier dans le secteur de l'élevage entre l'Indonésie et le Timor-Leste. Khairuddin, dans sa déclaration à Kupang, a expliqué vendredi que la base des principes de santé animale et de leurs produits concernant les marchandises export-import et les procédures des services de quarantaine export-import à la frontière sont des choses importantes. Khairuddin a souligné que la mise en œuvre du risque zéro est un effort pour empêcher l'entrée des ravageurs infectieux stratégiques en provenance de l'extérieur de la région. Selon lui, il s'agit d'une mesure de précaution visant à atténuer le risque de propagation de parasites et de maladies dangereuses telles que la fièvre aphteuse et les dermatoses nodulaires. Le ministre du Commerce Zulkifli Hassan a déclaré que l'Indonésie et le Canada avaient convenu de l'objectif de conclure l'accord de partenariat économique global Indonésie-Canada, ou ICHEPA, à la fin de 2024 afin d'accroître davantage le commerce entre les deux pays. Zulkifli Hassan, dans une déclaration écrite à Jakarta, a déclaré vendredi que ICHEPA était le premier accord commercial de l'Indonésie avec la région nord-américaine qui pouvait ouvrir l'accès au marché et aux chaînes d'approvisionnement dans la région, ainsi qu'accroître la compétitivité des produits indonésiens sur les marchés canadiens. Il a souligné que l'achèvement de l'ICHEPA pouvait accroître le commerce et les investissements entre l'Indonésie et le Canada. Zulkifli a ajouté que l'Indonésie tiendrait le 7e cycle de négociations de ICHEPA qui devrait avoir lieu en mars 2024. Auparavant, le 6e cycle de négociations de ICHEPA avait eu lieu virtuellement du 23 au 27 octobre 2023. L'Organisation des Nations Unies a récompensé Bribtu Renitari Smayanti lors de la semaine annuelle de la police des Nations Unies. L'événement a eu lieu du 13 au 17 novembre 2023 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, États-Unis. Dans le cadre de la mission mondiale de paix, Brigadier Renitari Smayanti est responsable de la base de données sur la criminalité. Elle travaille pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. L'Organisation des Nations Unies a reçu ce prix parce qu'elle a aidé à conceptualiser et à développer la base de données sur la criminalité. Les données permettant à la police des Nations Unies de cartographier et analyser les points de criminalité et aider les forces de sécurité de l'État à planifier les opérations. Le prix a été remis symboliquement par le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Jean, dans une déclaration écrite citée vendredi, a dit qu'il servait d'exemple une bonne idée sur la façon dont les femmes participent et dirigent le maintien de la paix. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici les infos de l'Indonésie. La première nouvelle est venue de Bandung, la province de Java de l'Ouest. L'Agence de développement et de renforcement de la langue, ou l'Agence des langues, du ministère de l'Éducation et de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, organise le festival Tunas Bahasa 2023 à Bandung, Java de l'Ouest, du 13 au 16 novembre 2023. Le chef de l'Agence linguistique est Aminuddin Aziz espère que le festival Tunas Bahasa Ibu 2023 pour les niveaux primaires et secondaires de la province de Java de l'Ouest et de Banten, qui se tiendra à Soreang, Bandung, pourra éduquer la jeune génération et le grand public sur le fait que les langues régionales sont cool. Le festival Tunas Bahasa Ibu 2023 à Java de l'Ouest et à Banten a réuni 787 participants, dont 189 garçons et 192 filles du primaire, puis 203 garçons et 203 filles du premier cycle du secondaire. En dehors de cela, il y avait aussi 114 enseignants qui accompagnaient. Les participants sont des représentants de 27 districts, villes de Java de l'Ouest et deux de districts de la province de Banten, à savoir Pandeglang et Lebak. Pendant ce temps, il y a 23 jeux experts, praticiens et universitaires dans le domaine de la langue et de la littérature sundanaise qui fournissent des évaluations objectives. Un certain nombre de concours auxquels les participants ont participé étaient le concours Ngarang Charpon ou composition de récits, Nembang Pupu, Ngadongeng Maca Sajak et Borangan ou Ngabador Sorangan ou comédie en langue sundanaise. La nouvelle suivante est venue du district de Pasaman de l'Ouest, province de Sumatra de l'Ouest. Nagari Sinurwik, à la région de Pasaman de l'Ouest, à Sumatra de l'Ouest, a reçu le prix du village sans retard de croissance dans la catégorie d'intervention spécifique de l'Agence nationale de population et de la planification familiale en raison du programme d'innovation SUSPADI ou les œufs et noaderies. Le chef du service d'autonomisation communautaire de Nagari, Randy Hendrawan, à Simpang 4, a déclaré mercredi que le prix avait été remis directement par le chef du BKKBN Hasto Wardoyo, accompagné par le ministre des Villages, du Développement des Régions Défavorisées et de la Transmigration PDDT, représenté par le chef du Centre des Données et d'Information du ministère des Villages PDDT, Teresia Junidar, est le chef de l'Association des services de santé dans toute l'Indonésie M-Subu à Yogyakarta lundi dernier. Selon lui, l'innovation de SUSPADI est soutenue par l'application SIGSIT Stunting pour visualiser les données sur les enfants présentant un retard de croissance en temps réel. Les cadres de développement humain jouent un rôle important en aidant le gouvernement et les communautés Nagari à faciliter la prévention de retard de croissance. Hasto Wardoyo a expliqué que le programme SUSPADI originaire de Nagari Sinurwik consiste à donner des œufs et du lait d'arachide aux tout-petits en retard de croissance qui appartiennent à la catégorie des pauvres. Le taux de retard de croissance à Nagari Sinurwik grâce à l'application de retard de croissance Nagari est d'environ 13%. Ce chiffre est conforme aux orientations du gouvernement central, à savoir moins de 14%. La dernière nouvelle vient de DKI Jakarta. Le service culturel du DKI Jakarta a déclaré que les fouilles sur le site de l'île Onrus dans les îles Seribu, qui ont été interrompues pendant des décennies, sont actuellement poursuivies par une équipe archéologique pour rechercher la confirmation des traces de l'histoire coloniale laissée dans la région. Le chef de l'équipe de fouilles archéologiques du service culturel du DKI Jakarta, Sandrian Attahia, sur l'île d'Onrus à Jakarta, a déclaré mercredi que les activités de fouilles archéologiques sur le site de l'île d'Onrus ont été menées pendant 14 jours, du 8 au 22 novembre. L'île d'Onrus est l'une des îles historiques du groupe des îles Seribu, qui a été désignée zone du patrimoine culturel basée sur le décret du gouverneur de Jakarta numéro 2209 de 2015. Au cours de l'ère coloniale, le rôle de l'île d'Onrus s'est étendu d'une île où les navires étaient construits et réparés dans l'entrepôt pour le stockage de marchandises d'exportation à une base de défense maritime dans les eaux au nord de Batavia. Sandrian Attahia a déclaré que l'un des vestiges qui montre encore le rôle de l'île en tant que base de défense est celui d'un fort défensif construit en 1656 sur l'île d'Onrus. Il raconte que le premier fort de l'île d'Onrus fut construit en 1656 sous une forme rectangulaire et n'était équipé que de deux bastions avec une courtine peu longue. Un bastion est un poste de sécurité situé à l'angle d'un bâtiment fort qui fait saillie avec un plan rectangulaire ou trapézoïdal, tandis que la courtine est un mur qui relie les deux bastions. Historiquement, le fort a été démantelé par les troupes coloniales car elles allaient construire par étapes un fort plus grand à partir de 1671. Ce grand fort a été représenté sur une carte de 1744 réalisée par G.W. Heath sous la forme d'un pentagone avec des bastions à chaque coin. C'est les infos de l'Indonésie. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons le 18 novembre 1912, la fondation de Muhammadiyah. L'une des plus grandes organisations religieuses islamiques d'Indonésie, Muhammadiyah, a été fondée le 18 novembre 1912. Muhammadiyah a été fondée par Kiai Haji Ahmad Dahlan au village de Kauman à la région spéciale de Yogyakarta. Le nom de cette organisation est tiré du nom du prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Citant muhammadiyah.or.id, le mot Muhammadiyah signifie linguistiquement disciple du prophète Mohammed. L'utilisation du mot Muhammadiyah vise à attribuer, à relier aux enseignements et aux traces de la lutte du prophète Mohammed. Dans sa formation, Muhammadiyah reflétait de nombreux enseignements de la religion islamique contenus dans le livre sacré du Coran. Le mouvement Muhammadiyah se caractérise par l'esprit de construction d'un ordre social et d'une éducation pour une société plus avancée et plus instruite. Il montre que les enseignements islamiques ne sont pas seulement une religion personnelle et statique, mais qu'ils sont dynamiques et existent en tant que système de vie humaine sous tous ses aspects. La fin de la bataille alliée et allemande le 18 novembre 1916. La bataille de la Somme était une guerre entre l'Allemagne et la France et la Grande-Bretagne qui s'est déroulée du 1er juillet au 18 novembre 1916. Cette bataille, qui s'est déroulée dans la Somme en France, a été l'une des plus grandes batailles de tranchées de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, la guerre des tranchées était célèbre où les troupes se mettaient à l'abri dans des tranchées pour attendre l'ennemi ou simplement défendre leur territoire. À la fin de la guerre, le 18 novembre 1916, environ 3 millions de soldats furent envoyés au combat. Environ 1,7 million de soldats sont morts. La bataille de la Somme a également été considérée comme la bataille la plus sanglante de la Première Guerre mondiale, tuant 19 000 soldats britanniques dès le premier jour. L'indépendance de la Lettonie vis-à-vis de la Russie en 1918. Le 18 novembre 1918, la République de Lettonie a officiellement annoncé son indépendance de l'Empire russe. L'indépendance est reconnue le 26 janvier 1921. Malheureusement, le 5 août 1940, le territoire de la Lettonie est occupé par l'Union soviétique. Puis, le 10 juillet 1941, elle est occupée par l'Allemagne nazie. Toujours en 1944, elle est à nouveau contrôlée par les Soviétiques, jusqu'à ce que la Lettonie retrouve finalement son indépendance le 4 mai 1990. Puis l'indépendance a été restaurée le 21 août 1991. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Takjub pada diriku. saja buat aku memikirkan dirimu. Oh, tapi kali ini aku merasakan hal yang baru. Ku jadi ragu dan malu padamu. Bibirmu membuatku tak bertahan membayangkan dirimu.
Membayangkan dirimu,
senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu.
Suara dan parasmu, senyuman manjamu.
Soy toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voanews.id. Et voici la rubrique Mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulé En marge du forum de l'APEC, le ministre du Commerce a tenu des réunions avec plusieurs ministres des pays partenaires. Le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, a tenu des réunions bilatérales avec un certain nombre de pays partenaires en marge des activités de la coopération économique Asie-Pacifique 2023 à San Francisco aux États-Unis, qui ont eu lieu du 11 au 17 novembre 2023. Le ministre du Commerce a rencontré les États-Unis, l'Australie et le Canada. Citant un rapport de l'agence de presse Antara, lors d'une réunion avec le vice-ministre des Affaires étrangères pour la croissance économique, l'énergie et l'environnement des États-Unis, José W. Fernandez, mercredi, Zulkifli a accepté de donner suite à tous les accords avec les États-Unis, dont l'un a convenu de travailler ensemble pour vaincre la déforestation. Concernant cette collaboration, Fernandez a souligné la question de la déforestation liée à l'exploitation du nickel. Il a déclaré que les États-Unis travailleraient ensemble avec la communauté concernant les normes environnementales conformément aux réglementations des États afin de surmonter le problème de la déforestation. Auparavant, le ministre du Commerce, Zulkifli Hasan, a également rencontré mercredi le ministre australien du Commerce et du Tourisme, le sénateur Don Farrell. Zulkifli Hasan a apprécié la réponse positive de l'Australie à la nomination de l'Indonésie comme membre à part entière de l'Organisation de coopération et de développement économique ou OCDE. Lors d'une réunion bilatérale avec le sénateur Don Farrell, Zulkifli a déclaré que l'Indonésie considère que l'adhésion à l'OCDE devrait être plus inclusive en impliquant davantage de pays en développement. Par ailleurs, le ministre australien du Commerce, Don Farrell, a déclaré que l'Australie espérait coopérer davantage avec les pays membres de l'ASEAN, en particulier l'Indonésie, et se féliciter de la coopération bilatérale liée au commerce de services et de minéraux essentiels. Le même jour, le ministre du Commerce, Zulkifli Hasan, a également tenu une réunion bilatérale avec la ministre canadienne de la promotion des exportations, du commerce international et du développement économique, Mary Ann. La réunion s'est tenue en marge de la réunion ministérielle de la coopération économique Asie-Pacifique ou Asia-Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting ou abrégé en APEC-AMM. L'Indonésie et le Canada ont convenu de l'objectif de conclure l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Canada, ou ICACEPA, à la fin de 2024, afin d'accroître davantage les échanges commerciaux entre les deux pays. L'Indonésie et le Canada ont également discuté de l'accord de libre-échange ASEAN-Canada, ou ACAFTA. les deux pays ont convenu de faire pression pour atteindre l'objectif d'achèvement ou ACFTA en 2025. Voilà mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Birthing my bride through the city in the night. Looking for the spotlights to shine, shine down on so bright. Driving my bride through the city in the night. Everything is good and alright. We're gonna party till the morning light.
Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
les auditeurs de Voice of Indonesia, quand on entend le mot Bali, l'attraction touristique qu'on pensait est la plage de Kuta, Sanur, Seminyak et d'autres. Même si Bali, surnommée l'île de Dieu, possède de nombreuses destinations étonnantes. Pour vous qui voulez passer des vacances à Bali et profiter d'une beauté anticonventionnelle, vous pouvez aller à Pasir Uuk, qui signifie la plage brisée, où parmi les touristes étrangers, elle est connue sous le nom de Broken Bee. Pasir Uuk est situé à Banjar Sumpang, Bunga Mekar, Nusa Penida, Bali. Beau et unique est le titre le plus approprié pour le tourisme de Nusa Penida, Pasir Uuk. Broken Bee, ou mieux connu sous le nom de Pasir Uuk par les résidents locaux, est une falaise de corail de 200 mètres de haut qui s'avance dans l'océan. Cette falaise a été exposée à l'abrasion de l'eau de mer pendant des siècles, de sorte qu'entre géants ressemblant à une grotte s'est formé naturellement au milieu. L'ensemble ressemble à une baie circulaire avec des arches tournées vers la mer. L'eau vient de l'arche et pénètre par des trous ou des tunnels dans la falaise. L'eau de mer emprisonnée au milieu de cette falaise paraît claire et bleutée. Les vagues sont également calmes. Vous pouvez clairement voir la vie marine, en particulier les poissons mantas et les tortues. Une autre particularité de Pasir Uuk n'est pas seulement sa forme qui ressemble à une piscine géante ou un puits, mais aussi l'atmosphère environnante qui est une étendue d'herbes vertes et fraîches. À Pasir Uuk, les touristes peuvent faire beaucoup de choses, comme prendre des selfies et des photos de paysage. Outre les falaises creuses qui ressemblent au pont, pouvant également être utilisées comme objets, les dégradés de couleur brunâtre des falaises combinés au bleu de l'eau de mer garantissent des photos panoramiques instagrammables. Si vous avez de la chance, vous pourrez apercevoir des dauphins et des rails pastenage du haut de la falaise, car de cette hauteur, on voit clairement les dauphins sauter. Pour vous qui avez l'esprit aventureux, vous pouvez essayer de suivre les falaises circulaires en les contournant. Chers auditeurs, l'activité préférée des touristes lors de la visite de Pasir Uuk est de profiter du lever et du coucher du soleil. Sa position géographique élevée permet de voir clairement sa beauté. De nombreux touristes campent délibérément pour pouvoir voir et ressentir la chaleur du soleil levant. En dehors de cela, des vacances à Pasir Uuk ne seraient pas mémorables si vous n'appréciez pas la nourriture et les boissons typiques telles que la glace à la noix de coco. Même si vous avez l'habitude de boire de la glace à la noix de coco, boire de la glace à la noix de coco à Pasir Uuk est pour créer des souvenirs inoubliables.
Oh,
Voice of Indonesia.
L'Indonésie en couleur d'aujourd'hui dont le titre est Minahasa Wakefest 2023. Sulawesi du Nord accueillera le Minahasa Wakefest 2023 qui aura lieu du 24 au 26 novembre 2023. Concernant cet événement, le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative Sandiaga Salahuddin Uno à Jakarta a déclaré lundi que cet événement présente une nouvelle version du ski nautique, à savoir le wakesurf et le wakeboard sur le lac Tondano, célèbre pour sa beauté panoramique. Le Minahasa Wakefest de cette année a pour thème Lake Tondano, Home for Everyone.
Jadi ini versi kekiniannya dari ski air. Nah, Wakefest ini akan diselenggarakan.
C'est donc la version moderne du ski nautique. Ce Wakefest aura lieu à Minahasa, le lac Tondano, du 24 au 26 novembre et aura pour thème le lac Tondano, la maison pour tout le monde. Bien qu'il ne soit pas aussi populaire que les autres sports nautiques, le wakeboard et le wakesurf, selon le président du comité d'organisation, Rio Dondokambe, sont populaires en Indonésie depuis plus de 20 ans. En fait, l'Indonésie compte des athlètes dans ce sport. Il existe plusieurs différences entre le wakeboard et le wakesurf. Le wakeboard est une combinaison de ski nautique, de snowboard et de surf. Pendant ce temps, le wakesurf est un sport nautique où le surfeur fait du surf. Au départ, le cavalier s'arroge à une corde attachée au bateau. Une fois la planche de surf posée à la surface de l'eau, le rider doit lâcher la corde et être libre de surfer. Plusieurs catégories seront en compétition. Dans le sport du wakeboard, il existe des catégories pour les garçons et les filles juniors des moins de 14 ans, les hommes et les femmes novices, les hommes et les femmes intermédiaires, les hommes et les femmes avancées, les hommes et les femmes maîtres et les hommes et femmes ouvertes. Dans le sport du wakesurf, il existe des catégories pour les garçons et filles juniors de moins de 14 ans, les hommes et femmes novices, les hommes et femmes intermédiaires et les hommes et femmes ouvertes. Le Minahasa Wakefest 2023 réunira 7 pays, à savoir la Chine, Hong Kong, l'Indonésie, le Japon, Singapour, Taïwan et la Thaïlande. Le comité a noté que 84 athlètes étrangers s'étaient inscrits. En plus des compétitions, le gouvernement provincial de Sulawesi du Nord et le gouvernement de la région de Minahasa ont également préparé des événements parallèles en tant que forum pour promouvoir la société et la culture de Minahasa. Le régent par intérim de Minahasa, Jamie Kumendong, a déclaré que le charme du tourisme animalier, de l'écotourisme, du tourisme gastronomique et du tourisme culturel du district sera présenté aux participants et aux touristes. Des événements parallèles auront lieu à chaque match, notamment à 16h heure l'Indonésie centrale. À cette occasion, des événements parallèles sous forme d'attractions culturelles, de présentations de villages touristiques et de traditions Minahasa seront organisés.
Get up, going up.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons vous présenter d'abord une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Dinda Bestari, chantée par le groupe de genre Keroncong Paksi. Cette chanson créée par RBY Suprono et RM Sunandar a été popularisée par Toto Salmon, Mus Mulyadi et Rama Aifama. Cette chanson raconte d'un homme qui aspire à son amante qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Son devoir de soldat pour défendre le pays l'obligeait à se séparer de sa bien-aimée. En se souvenant de bons moments passés ensemble, l'homme ne peut que rêver à une histoire d'amour avec son amante. Bon, chers auditeurs, voici Paksi Band intitulé Dinda Bestari. Bonne écoute!
Hati
Voice of Indonesia.